Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Mana Malassiné. Mana, elle est à la tête de sa propre société de consulting, en marketing et communication notamment. Mais avant ça, elle a eu un parcours plutôt détonnant et atypique, vous le découvrirez à travers cette conversation. Déjà, parce qu'elle a réussi à faire les études de communication dont elle rêvait, sans même avoir son bac. Et puis Mana, elle savait que le salariat, c'était pas quelque chose qui la bottait vraiment, elle préférait entreprendre. Elle a donc entrepris très tôt avec un premier projet qui s'appelait Le Lucien. Elle créait en fait des nœuds papillons elle-même, donc elle a quand même déjà la fibre créative. Et puis, quelques années plus tard, elle lance un second projet de plus grande envergure qui s'appelle Mardi Matin avec une associée. Mardi Matin, c'était une marque tourangelle fabriquée notamment au Portugal qui proposait des vêtements pour les hommes et pour les femmes numérotés avec, au début du projet, des collaborations avec des illustrateurs. Ce beau projet a duré quelques années, lui a permis d'acquérir beaucoup d'expérience, à la fois dans le secteur du prêt-à-porter, dans lequel elle était quand même plutôt novice, évidemment, mais aussi à travers le management, à travers la communication, le marketing aussi, même si c'était son domaine de prédilection. Bref, elle a beaucoup appris. Malheureusement, le projet s'est stoppé et vous découvrirez qu'elle a su rebondir. Alors non, pas en postulant à un poste de salarié, mais tout simplement en repartant sur un nouveau projet. Aujourd'hui, cette société de consulting. Mana, elle va donc nous parler de tout ce cheminement qui l'amène à créer des projets entrepreneuriaux. Elle va aussi nous parler du secteur du prêt-à-porter et notamment de sa marque Mardi Matin qui était bien connue ici en Touraine. Elle va vraiment nous parler des avantages et des inconvénients d'avoir une marque, des difficultés. Et puis vous découvrirez aussi à travers son témoignage que c'est une personne inspirante de par sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Elle est beaucoup adepte du « c'est pas grave en fait ». « C'est pas grave, qu'est-ce qu'on risque ? Vas-y, lance-toi, ose ». Quelles seraient les conséquences? Est-ce qu'elles sont dramatiques? Est-ce que c'est grave ce qui risque de se passer? Et dans 90% des cas, eh bien, la réponse est non. Donc le « c'est pas grave », finalement, on peut peut-être le répéter assez souvent et ça nous aidera à nous lancer. Elle va nous parler de tout ça, de ses inspirations notamment. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera, que ça vous amènera à vous questionner peut-être sur vos projets pro ou perso. En tout cas, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mana.
Bonjour Émilie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de podcast. Je suis ravie de t'avoir avec moi.
Avec joie.
Et j'aimerais, dans un premier temps, pour débuter, que tu puisses te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu veux bien, quel âge tu as.
Ok, eh ben, écoute, je m'appelle Mana. Donc là, aujourd'hui, en fait, je suis à mon compte depuis peu.
D'accord.
J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait tu vois, des études de communication. Mais j'ai pas eu mon bac.
Ok, voilà. Bah on y reviendra alors.
Ouais, c'est une sacrée petite histoire assez rigolote.
Ouais.
Donc voilà, j'ai fait des études de communication, de marketing, commerce aussi, un petit peu à Paris. Okay. J'ai pas mal voyagé. Et au cours de ce voyage, beaucoup de réflexions autour de l'entrepreneuriat en rentrant.
D'accord, ok.
Parce que
excuse-moi, je te coupe. Tu as quel âge? Est-ce que tu veux bien nous donner ton âge?
Moi, j'ai 31 ans.
31 ans, toute jeune, je peux le dire.
Bah, attends. Hein.
Alors, justement, tu me parles de tes études. T'es un petit peu allé trop vite pour moi. On va revenir en arrière.
Ouais.
Justement, tu me dis que tu n'as pas ton bac. Est-ce que tu es allé au lycée et ensuite...
Ouais, quand même.
Ouais, ok. Non, non, mais tu aurais pu t'arrêter avant pour une orientation, ouais, tu vois, un peu plus pro. Et du coup, tu n'as pas eu ton bac. Est-ce que tu as retapé, comme on disait à l'époque, ta terminale et que tu l'as repassée? Ou est-ce que justement, tout de suite, tu as fait des études de com et comment tu y es arrivée sans avoir ce diplôme?
En fait, non. Alors, j'ai effectivement... J'étais pas très scolaire comme élève. Je savais ce que je voulais faire.
Ah, c'est bien déjà.
Donc, en terminale, j'ai redoublé effectivement ma seconde parce que... à être trop border, tu vois, année après année, il y a un moment où ça passe pas.
Oui.
Et en terminale, année très bordélique pour moi.
D'accord.
Parce que, pas l'envie. Et puis, surtout, j'ai passé 4 concours, tu vois, pour rentrer dans des écoles de communication à Paris.
Oui.
Je les ai tous eus. C'était vraiment un sujet qui me passionnait. J'ai eu une découverte... peut-être à 17 ans, tu vois, d'un bonhomme qui était à l'époque justement en train de faire des études de communication à l'ISCOM à Paris et qui m'avait vendu ça, mais comme du pain béni. Donc, en fait, j'ai adoré. Je me suis dit, OK, c'est vraiment ce que je veux faire.
Oui.
Les concours se sont donc très, très bien passés. Révélateur complètement.
Oui.
Mais j'ai pas eu mon bac.
Bah oui, concours que tu as passé avant de passer ton bac.
Exactement, ouais. C'est ça. Et puis, donc un peu la déception, parce que là, tu te dis, punaise, c'est pas possible.
En fait,
j'ai le rêve qui a ça, et puis en fait, je peux pas y aller.
Ouais.
Et non, là, j'ai quand même pas mal de contacts, de très bons contacts autour de moi qui m'ont dit, mais figure-toi, et surtout des écoles qui m'ont dit, mais tu peux passer en fait ton BTS, communication, sans avoir ton bac.
Fou, alors ça, je savais pas.
Et ouais, il y a très, très peu de personnes qui le savent. En fait, le BTS est un brevet, donc en fait, fourni par l'État.
Mmh.
Et il s'avère, alors je pense que tous les brevets ne sont pas concernés.
D'accord.
Mais tu as pas mal de BTS en fait qui ne nécessitent pas d'avoir l'obtention du bac, seulement le niveau bac.
Ok.
Donc ça veut dire que tu dois être admissible au rattrapage.
D'accord.
À partir de ce moment-là, tu l'as ou tu l'as pas.
Ouais, ouais. Bah, je sais pas si et ça a changé, mais tu vois, à l'époque, je savais pas
ça. Ouais, mais alors à l'époque, tu vois, c'était pas non plus. Enfin, c'était il y a 10 ans, quoi.
Mais tu sais, ces trucs-là changent tellement quand j'entends les termes maintenant qu'ils utilisent et les façons de choisir. Ouais. Bah ouais. Donc en 15 ans, ça a beaucoup évolué.
Mais c'est un texte qui date des années 80.
Ah ouais, ok, d'accord.
Donc voilà.
J'ai
accédé en fait à l'école, alors pas celle que je voulais en revanche, mais j'ai accédé du coup à un BTS communication sans problème. À Angers.
Ok, bon bah comme quoi.
Voilà.
Donc des études de com à Angers en BTS com et ensuite.
Et ensuite, je suis partie à Paris, j'ai fait un bachelor commerce et marketing. Et puis ensuite, une spécialisation master dans le e-commerce.
D'accord.
Et le
marketing, web marketing digital.
Ouais, exactement.
D'accord. Tu m'avais dit, quand on avait préparé l'épisode, un master en 6 mois.
Oui, c'est exactement ça.
Je suis plus au courant que toi.
Ouais, merci. Non, en fait, ça me paraît loin, mais oui, c'est ça.
Et du coup, quand tu faisais ces études, tu me disais que la com, effectivement, c'était un domaine qui te plaisait. Est-ce que tu avais une idée de métier? Parce que la com, c'est un domaine qui est hyper vaste. Donc, tu te spécialises en marketing digital. Ouais. Est-ce que tu as une idée derrière la tête de job après que tu aimerais
Alors oui, moi, j'aimais beaucoup tout ce qui concernait le planning stratégique.
D'accord,
C'était vraiment... Un métier pour moi qui commençait à me passionner de plus en plus.
Mmh.
Alors, en fait, en études, en communication, c'est pas forcément un métier sur lequel on parle beaucoup.
Non, pour avoir fait des études comme ça,
tu vois. Faut un petit peu s'en intéresser de ton côté. Et en fait, là où j'ai eu un peu de chance quand même, c'est d'avoir pu être chargée d'études chez Dragon Rouge pendant quelques mois.
Ok.
Et alors là, ça m'a complètement passionnée. Donc, globalement, ce que ça veut dire, c'est que tu t'occupes de l'étude des consommateurs, voilà, sur des dossiers particuliers. Là, en l'occurrence, moi, j'avais Kellogg's comme client, donc c'était royal au bar, tu vois. Je pouvais vraiment apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Une équipe géniale, mais travail de chien, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même très, très chronophage. Et puis, voilà, tu passes des soirées à appeler des clients à 21h, 22h, 23h, quand eux ont leur dispo.
C'est pas une image ou une caricature, le travail en agence de com. Ça existe vraiment. Ça existait vraiment.
C'est pas un stéréotype.
Ok, et ça, c'était en alternance pendant tes études ou c'était vraiment un job que tu as décroché à la fin de tes études chez Dragon Rouge?
Alors, il s'avère que moi, j'ai dans mon parcours, petit parcours de salarié, tout petit, parce que en fait, je ne l'ai fait qu'en alternance. Donc, j'ai bossé en agence, pas mal. J'ai bossé donc chez Dragon aussi en agence, mais pareil, pendant mes études et dans une agence presse où j'ai fait de l'éditorial également. Et pendant mes études.
D'accord. Donc, c'était en parallèle, en alternance.
Oui.
Et donc, à la suite de ce master spécialisé que tu passes en 6 mois, un peu web marketing, etc., qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, justement, tu vas postuler ou pas? On a compris, je pense, un peu que non, puisque petit parcours de salarié, comme tu l'as dit, mais explique-moi.
Non, je suis partie. j'ai préféré l'aventure. Alors, en fait, bon, il y a un petit peu le côté perso qui rentre dans tout ça, mais
ouais.
Mon mari donc m'a demandé, a fait sa demande plutôt en mariage à la fin de mes études à Paris.
D'accord.
Donc, petit bébé que j'étais, j'avais 22 ans.
Ah ouais.
voilà, tu vois, j'en ai 31, j'ai 3 enfants, tout va bien.
Tu as dit oui.
J'ai dit oui. J'ai pas hésité, mais après, je me suis dit, le lendemain, tous les deux, on s'est réveillés, on s'est regardés, on s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'on a fait?
Il avait lui aussi 22 ans.
Enfin, ah, pas du tout, non, d'accord. Non, alors on a okay. 18 ans d'écart.
On ok, est... d'accord. Ouais, non, je te demande parce que chelou. Du coup, pour deux jeunes, là, pour le coup, c'était vraiment waouh.
Non, pas du tout. Lui, il était déjà, il avait déjà sa vie, il est ouais, chef d'entreprise okay. aussi, donc bien avancé
oui, d'accord.
sur ce parcours-là. Bon, voilà, et puis en fait, je lui ai dit, écoute, pas de problème, sauf qu'il y a un truc avant de démarrer notre vie à deux réellement.
Ouais.
Ben alors, c'est que tu me laisses partir faire un working holiday visa. Je pars quelques mois avec une copine en Australie. C'est ce qui s'est passé.
C'était la condition. Okay. Ouais.
Et c'est donc... là où tu t'es dit, ok, c'est vraiment le mec. Tu
ouais.
vois.
Bah oui.
À partir du moment où il accepte que tu te barres pendant 3-4 mois, tu vas pendant tes fiançailles.
Oui, c'est sûr. Ok, donc tu es partie en Australie.
Ouais.
Tu as bossé dans ton domaine là-bas. Qu'est-ce que tu as fait?
Pas du tout.
Ok, c'était voyage, découverte.
Ouais. Ouais. Ok. Là, c'est un peu bosser pour survivre. Tu vois.
Ok.
Bon, après, c'est facile parce qu'en Australie, tu trouves du travail ouais, facilement.
Ouais, c'est ce qu'on entend. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, tu pars combien de temps? Tu m'as dit 4 mois à peu près?
Ouais, 3-4 mois. Ouais.
Ok, 3-4 mois. Tu reviens en France.
Je reviens en France.
Et là, dis-nous.
Je me prends une donc... claque de l'espace.
Ouais.
Je suis censée me marier dans 6 mois.
Bah et oui, j'allais fait, dire, il faut se lancer dans les préparatifs là.
Ah là ouais. J'étais pas du tout. Non, j'étais pas du tout dedans.
Ouais.
Bon, alors mon pauvre Quentin qui m'attendait avec une banderole, tu vois, trop mignon à la maison, welcome
ah,
home. J'étais là, j'avais envie de chialer devant quoi.
Ouais.
Et je lui ai dit, mais je lui ai dit 2 ans après, tu vois. donc voilà, non, écoute, ça a été dur parce que c'est vrai que c'est quand même un monde complètement à part, l'Australie.
Oui, c'est ça que tu veux dire, le décalage oui. entre la France et l'Australie.
Ouais. En fait, tu vis dans un pays où l'optimisme est la règle d'or.
Ah ouais, d'accord.
Et où le partage, l'échange et la sympathie et l'empathie font partie du décor. Donc en fait, alors je le vends comme étant l'Eldorado.
Oui, oui, bien sûr.
Aussi. Il y a bien évidemment des petits moins, mais en fait, non, c'est très très différent de la France.
Ouais,
en France, on se retrouve dans un pays où on est très râleur.
Oui, on est connu pour ça, mais c'est vrai qu'il y a des points sur
lesquels... Et on n'a pas été éduqués pour être optimiste.
Non, c'est vrai. Ouais, donc, c'est vrai. Ouais, donc je comprends que le retour soit un peu,
ouais,
un peu chaud.
Un peu violent.
Pour autant, qu'est-ce qui se passe? Le mariage se passe dans ta vie pro, dans ta vie pro
J'ai
aussi.
J'ai pas fait la mariée qui se casse à reculons. Non, j'y suis allée. Non, en revanche, effectivement, tu vois, après 3 semaines de recherche de travail, où je ne trouve pas d'ailleurs de travail.
Dans ton domaine, dans la com.
Bien sûr, ouais, en marketing. Là où Quentin me dit, mais bien évidemment, écoute, ça fait que 3 semaines que tu es en train de chercher du travail, donc tu t'attendais à quoi?
Oui.
Et je ne sais pas, peut-être que le travail en or allait arriver, non. Donc très très rapidement, je me suis dit, ok, le travail ne vient pas à moi, c'est moi qui vais aller à lui. Et j'avais entamé un pseudo-projet manuel, confection de nœuds papillons en tricot.
Ouais, ah super.
Un an avant.
D'accord.
Donc, quand je faisais mes études encore à Paris.
Ok.
Ça plaisait pas mal. J'avais quelques copains un peu acheteurs, voilà.
C'est toi qui faisais?
Ouais, c'est moi
créatif,
qui faisais.
T'es manuel,
au départ,
en fait.
Au départ. Au départ.
D'accord.
J'ai un côté, ouais, très okay. créa. Manuel, j'ai le besoin de, tu vois, d'entamer.
Ouais.
Mais
ça te saoule vite.
J'ai le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, donc j'ai créé cette boîte-là à ce moment-là.
Oui.
En mars 2015, j'ai créé Le Lucien,
qui
était une marque spécialisée dans les nœuds papillons et accessoires de mariage.
D'accord.
Et qui a bien marché hein, au départ, tu vois, donc pendant 2 ans, j'ai fait moi-même.
Oui.
J'ai confectionné, j'ai patronné, etc. J'ai appris sur le tas parce qu'en fait, je ne savais pas du tout coudre. Le tricot est vite passé à la trappe parce qu'en fait, quand je voyais que ça me prenait 3 heures pour vendre un truc.
Ouais,
à
ça prend encore plus de temps, je pense, que de coudre, hein, le tricoter.
Voilà, il ne faut pas être super mathématicien pour comprendre que globalement, quand tu passes 3 heures et que tu le vends à 20 euros, ça ne marche pas.
Ouais.
Tu ne peux pas avoir ton frigo rempli. donc, non, je suis passée à la couture et là, c'est ma maman qui m'a appris.
D'accord, ok.
Et je me suis dit, ok, vas-y, j'ai des idées. Ça venait un peu de partout et je me suis lancée comme ça. C'était pas simple parce que, au départ, tu vois, les gens prenaient pas trop ça au sérieux. Ils me disaient, ok, c'est du loisir. Ma maman aussi, tu vois, me disait. Non, mon papa, pardon, me disait, en fait, tu veux en vivre comment, quoi. Il y a un moment où c'est pas très concret ton truc. Et à côté de ça, j'avais j'avais d'autres personnes et surtout ma maman qui me disait mais en fait plonge et apprends à nager, tu vois, ce sera comme ça.
Bah, c'est vrai, ouais, elle a raison.
Et donc voilà, et ça s'est passé comme ça, et finalement la boîte a pris, et j'ai réussi, tu vois, à pousser cette boîte-là en faisant finalement à la fin 30K en étant toute seule et du coup en sous-traitant, parce qu'il y a un moment où ça devenait tellement trop chronophage que
ouais,
tu sous-traites.
Ouais, parce que tu as de commandes, puis ça te prend de temps, ok. Oui, donc 30K toute seule en micro, c'était...
c'était
après, chacun, je le dis souvent sur certains épisodes, chacun sa notion et son besoin en termes financiers. Mais bon, effectivement, c'était pas mal hein, pour être toute seule, même si tu avais des charges un peu pour peut-être le sous-traite, enfin, ce que tu sous-traitais en fait,
mais tu vois, sur la couture. Ça... Mais...
Ouais, ouais. Ok. Et pourquoi cette idée de nœud papillon ? Parce que ça aurait pu être plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a spécifiquement quelque chose qui t'a fait penser et qui t'a fait tilt en disant, allez, des nœuds papes ?
Ça, c'est... Ouais, c'est exactement ça. Et ce truc, j'ai mis vachement de... Je pense que j'ai mis énormément d'années à comprendre ce que c'était, ce truc de gros tic, de déclic, ouais. Tu vois, un peu qui vient spontanément. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes s'attendent à avoir un discours de passion derrière tout ça. Tu vois, une histoire passionnelle de... Le nœud papillon, mon grand-père faisait ça. Non, pas du tout.
Belle histoire. Comment on appelle ça maintenant ? J'ai perdu le mot, tu sais, où tu racontes, t'as une histoire derrière toute marque, en fait.
J'ai plus le mot. Je sais pas.
J'allais dire
en web marketing, mais pas du tout.
En tout cas, oui, il y a une histoire derrière et qui a amené l'entrepreneur à faire ce qu'il faisait, mais pas forcément, en fait.
Un memento de boîte plus d'histoire, mais... La marque s'appelait Le Lucien. Alors, Lucien, c'était un hommage à mes grands-pères, effectivement. Mais alors, à part ça... Donc, en fait, ce déclic de l'envie soudaine qui te dit « Ok, j'y vais », j'ai compris que c'était la définition pour moi de l'entrepreneuriat.
D'accord.
C'est ce truc qui fait qu'à un moment, t'as une idée, t'y crois et tu te dis « Ok, je fonce ». Voilà. Et en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Après, la démarche d'y aller, de prendre, tu vois, d'accumuler la notion du risque,
bien sûr,
d'être vulnérable et tout ça, c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches. Mais ce petit déclic, je pense que je l'ai compris là, il y a seulement quelques mois, tu vois.
C'est vrai.
De me dire. Et donc, des idées comme ça, j'en ai des milliards, tu vois.
Ok, c'est souvent ce que me disent les entrepreneurs que je croise.
Ouais.
Ok, donc le Lucien, ça dure pendant combien de temps, cette aventure avec cette marque de nœuds papillons ?
Alors, le Lucien a duré, tu vois, 2015. Officiellement, ça a duré 4 ans.
Okay.
Officieusement, 6 ans.
Ok. Ouais, donc quand même une petite partie de ta vie, cette aventure. Et donc, excuse-moi, je te coupe.
Tu
voulais nous rajouter quelque chose.
Non, vas-y, je vais suivre.
Comment se termine justement cette marque ? Est-ce que les ventes s'essoufflent ? Est-ce que non, ça continue de marcher, mais c'est toi plutôt qui va t'essouffler avec ce projet et t'as envie d'autre chose ? Deuxième option.
Bah, y a un peu des deux.
Ok.
En fait, si tu veux, donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 4 ans, effectivement, j'avais l'envie de faire autre chose.
Ouais.
J'avais le côté créatif en fait qui me manquait énormément, donc associer des tissus ensemble, faire des commandes sur mesure pour des mariages, etc., j'aimais beaucoup. Mais j'avais une amie avec qui je travaillais énormément, qui est une super nana intelligente et très très pro dans son travail, qui est graphiste.
Oui.
Et Zazou donc était aussi illustratrice, et je lui ai demandé de me dessiner en fait un motif fleuri que je voulais retrouver sur une marinière. Donc j'ai créé une marinière. Donc rien à voir avec les nœuds papes, on est d'accord.
Ouais.
Mais j'ai créé une marinière fleurie, chose qui en fait pour moi était assez dingue parce que ça n'existait pas.
Ouais.
Donc j'étais un peu pump it up, tu sais.
Ben non, mais c'est trop bien.
J'ai fait le truc qui n'existe pas en France, alors que pas du tout, tu vois, c'est un tout petit truc, mais on s'en fout. Ouais. Et j'y suis allée, tu vois, c'est pareil, c'est exactement le même déclic que pour les nœuds papes. C'est-à-dire que j'avais l'envie d'eux et je me suis dit, ok, j'ai des sous, j'y vais, je fonce et c'est pas grave. Enfin, tu vois, on verra après si ça marche, ça marche pas, c'est pas grave,
donc,
j'y vais.
Donc, t'avais toujours le Lucien,
donc,
mais cette idée est venue dans un coin de ta tête de marinière.
Ouais. J'ai trouvé un atelier, tu vois, de réinsertion à Lille.
D'accord.
J'ai pu faire la confection. Tout a été fait en France. Les produits étaient français.
Ok, chouette.
Ouais, super chouette projet. Alors, niveau rapport prix, investissement, enfin, coût de revient...
Ouais, surtout dans le prêt-à-porter. Enfin, je m'y connais pas beaucoup, mais...
Ouais.
Mais on en reparlera après, mais ça doit pas être si
Non, mais en fait, je mangeais pas dessus. Tu vois, là, clairement, ouais, le frigo, il était vide.
Ok, on a l'image, du coup.
Mais c'est pas grave. J'étais contente de moi. J'en ai vendu quelques-unes, mais c'est là où je me suis dit, finalement, c'est bien de faire de la marinière, etc. Et j'ai envie d'aller plus loin, mais c'est pas avec un site de nœuds papillons que tu peux vendre ce produit.
Ouais, ok. Oui, parce qu'en fait, cette marinière, tu la vendais sous la marque Le Lucien ?
Oui, exactement.
Ouais, ok, d'accord.
Ouais. Et qui, effectivement, a été revendue après, sous mardi matin. Qui a été la
D'accord.
suite.
Ah, ok. Ouais. Donc, alors, bah, on va y venir, du coup. Donc, ce projet de marinière avec ta copine designer, tu nous le dis. Oui. Juste petite question. Alors, tu as déjà un peu répondu parce que tu m'as dit que c'était un déclic, un peu comme pour les nœuds papes, le fait de faire cette marinière. Mm. Ça t'a pas fait peur, malgré tout, de te lancer dans le secteur du prêt-à-porter ? Je pense que c'est ça dont on peut parler, marinière. Et puis après, tu nous le diras sur ton autre projet. Parce que c'est pas un secteur facile. Ne serait-ce que, je sais pas, moi j'y connais rien, mais dans la recherche des fournisseurs, je m'imagine que ça doit être un travail énorme en amont.
Ouais,
et puis après, oui, bien sûr,
tout
le reste.
Un peu comme, pour moi, c'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire que t'oublies que c'était galère pendant un temps. Donc c'est vrai que c'est un projet qui, pour moi, remonte, alors qu'il n'est pas si vieux que ça, mais je me souviens d'avoir eu un peu, tu sais, le syndrome de l'effet de la plume de Dumbo, tu vois un peu ?
Non, pas du tout.
En gros, Dumbo, tu vois, tout le monde connaît Dumbo. Dumbo, en fait, avait sa petite souris qui était son mentor, qui était sur lui et qui lui donnait une plume qu'il devait tenir pour pouvoir voler. D'accord. Et il était convaincu qu'il arrivait à voler grâce à la plume.
Oui, je comprends.
Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Normalement, il avait juste deux énormes...
J'ai
des oreilles qui ressemblaient à des ailes. Et donc, moi, en fait, c'était un petit peu le même effet. C'est-à-dire que j'avais une copine qui était Zazou, tu vois, qui était là et qui était un vrai soutien, qui me disait, mais Mana, en fait, t'as de l'or dans les mains. Ton projet, c'est une pépite. Donc, vas-y, fonce.
Ouais, tu t'es pas posé de questions, en fait.
Mais bien évidemment, elle a entièrement raison. Alors que, évidemment, les doutes et la notion du risque, tu vois, je l'avais. Mais le risque, d'ailleurs, pour moi, c'est un petit peu un paradoxe. C'est-à-dire que c'est un paradoxe entre, tu vois, la peur d'y aller et l'excitation de réussir.
Non, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord.
Et c'était complètement ça. Et finalement, on l'a fait. Alors, je ne dis pas qu'on a réussi, hein, parce qu'en soi, j'ai vendu, tu vois, avec le Lucien, j'ai dû vendre à peine la moitié sur quasiment 200 pièces.
Okay.
Mais ce n'est pas grave.
Mais tout à fait, je suis d'accord, c'est bien que tu dis ça
aussi. Il n'y avait pas de risque grave. Enfin, je ne suis pas en train de sauver le monde, tu vois. Il y a un moment, on parle de fringues. Donc voilà, donc ce projet, c'était début de l'envie d'une grande fuite.
Projet suivant. Et donc du coup, c'est en 2017, si je ne dis pas de bêtises, que tu lances Mardi Matin, une marque... trompe.
2019.
2019. Ouais. Alors, moi, j'avais noté, au bout de 5 ans, le Lucien s'arrête... et justement, avec tout ce cheminement, tu lances autre chose. Donc,
oui, mais en fait, j'ai fait les deux pendant un temps.
Ah, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Ok. Ouais. Donc, Mardi Matin, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, première partie de ma question, comment est né le projet ?
Oui.
Tout est une histoire de naissance tous ces projets, mais que tu me racontes un petit peu parce que j'ai envie de savoir, moi, comment ça s'est passé les débuts. Et puis, pourquoi Mardi Matin ? Pourquoi Mardi Matin et pourquoi cette activité-là, en nous expliquant un petit peu ce que tu proposais ?
Alors écoute, donc suite à la marinière, donc toujours cette envie de continuer dans le prêt-à-porter, j'en ai parlé à une amie qui était à l'époque, elle était enceinte, il me semble, de sa troisième.
Oui.
Et donc elle était en fait en congé parental, ou congé mat, je ne sais plus. Et il s'avère que donc elle avait aussi l'envie, tu vois, de créer un projet entrepreneurial. Elle avait envie de faire des choses de son côté.
D'accord.
J'en ai parlé, ça l'a intéressée et on s'est dit, ok, vas-y, fonce, on fait un truc. Alors au départ, c'était pas du tout parti sur le projet de Mardi Matin qui a existé.
Oui.
On était parti sur de la toujours dans le monde du mariage d'ailleurs,
okay.
pour pas trop s'éloigner du Lucien.
Oui.
Sur du cortège pour enfants.
D'accord, ok.
Donc ça remonte, hein, c'est vieux, mais... et en fait, c'est pareil, tu vois, on a essayé de faire quelques... Alors, on n'a pas fait une étude de marché, en revanche, on a juste posé les chiffres sur la table.
Oui.
Et puis elle, qui du coup était plus douée que moi sur les chiffres, me dit, mais en fait, non, là, c'est juste pas
c'est
possible,
pas viable,
c'est pas viable.
Ouais, okay.
Donc on s'est dit, ok, on arrête ça. On revient sur l'idée de travailler avec des artistes qui nous dessinent des petites choses,
comme
un peu comme
ta copine designer, ok,
voilà, et on s'est dit, ok, on va faire ça, et on part sur une série limitée. Donc voilà, côté éco-responsable qui commençait à rentrer en jeu. Donc ça, c'était réflexion, tu vois, 2018.
Ok, donc 2018, ouais.
Et puis voilà, 2018-2019, on a bossé pendant un an en créant une première collection. Donc c'est pareil, il y a eu un gros travail quand même de recherche, de sourcing,
j'imagine.
De recherche de fournisseurs. Mmh. C'est vrai que c'était pas simple. Mais voilà, en fait, on était convaincus de notre truc. On savait où on voulait aller. On savait pas comment. Mais au moins, on se donnait les moyens, tu vois, pour essayer de faire prendre forme au projet.
Ouais, mais c'est un beau message parce que vous n'étiez pas toutes les deux issues du prêt-à-porter.
Pas du
tout.
Vous
lancez un projet comme ça en sachant qu'il va y avoir à la fois des risques, des contraintes et des difficultés. Mais vous y croyez tellement que vous y allez quand même, donc chouette. Donc mardi matin, c'était effectivement des vêtements pour hommes et femmes.
Oui, exactement.
Okay.
Ça a été pour mes femmes pendant un moment, puis après plutôt mixte.
D'accord. Et donc du coup, l'atout, en tout cas la différence de mardi matin, c'était que vous faisiez appel à des illustrateurs, des designers pour... Non ?
Si,
raconte-moi.
Si, au départ, c'était ça.
Ça sera mieux de
au
dire
départ,
que moi.
Au départ, c'était ça. En fait, le projet... Alors, je pense que c'est comme tout. Les projets changent, tu vois. Mue. Et ça a du bon, d'ailleurs, de muer. Il faut l'accepter à un moment où tu dis... voilà, tu as l'objectif au bout, mais l'objectif du bout aussi peut changer.
Ouais.
Et c'est pas grave. Et, après, moi, je suis très pro.
Ouais, mais c'est bien
grave.
De nous partager cette vision-là.
Et donc, en fait, si tu veux, on se retrouve avec cette idée-là où, effectivement, on fait appel à des illustrateurs pour les premières collections.
Ouais.
Mais l'illustrateur, lui aussi, il a un coût. Donc, quand tu t'additionnes la totalité... avec un plus ou moins petit volume.
Et puis une démarche...
Une démarche éco-responsable
qu'on
faisait faire au Portugal.
Ouais.
Mais ça n'empêche qu'il y a un moment où le coût de revient était trop important en fait, pour pouvoir marger correctement. Donc
D'accord. On
a essayé de diminuer les coûts. Et en l'occurrence, les illustrateurs, du coup, sont passés à la trappe.
D'accord, ok.
Cependant, on est resté sur une image qui nous tenait vraiment à cœur et c'était vraiment le côté éco-responsable, série limitée, production labellisée.
D'accord.
Donc voilà, on a tout fait pour essayer de trouver, tu vois, les fournisseurs adéquats et qui pouvaient rester, en fait, dans nos conditions, notre cahier des charges, quoi, en fait.
Oui, c'est ça, mais tu l'as bien dit, tu as une idée de départ, et puis ça peut évoluer parce que plein de choses, et notamment l'aspect financier, parce que, c'est chouette de développer des projets qui te plaisent, qui te font vibrer, mais à côté, il faut bien gagner sa vie quand même, et
exactement.
Ça, c'est une donnée à pas négliger non plus, donc... Ok, très bien. Et donc, du coup, ça dure combien de temps, mardi matin? Moi, pour être arrivée à Tours en 2016, j'ai vu les débuts, et c'était chouette de suivre un peu l'aventure de la marque. Pour le coup, quand on était de Tours, on s'y identifiait encore plus.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un peu combien de temps ça a duré et pendant toutes ces années, l'état d'esprit et pourquoi? Puisque du coup, j'en parle au passé, donc on sait que ça s'est stoppé.
Oui, oui.
Pourquoi
ça
s'est stoppé? Raconte-moi.
Alors écoute, l'histoire a duré donc 4 ans à peu près.
Ouais.
On a développé, alors on est passé par pas mal de situations différentes, mais globalement, on restait quand même dans notre... ligne directrice qui était de faire de l'homme de la femme, beaucoup plus de femmes du coup. Alors après, tu vois, parce qu'on s'est rendu compte aussi que le secteur de l'homme n'était pas non plus ultra vendeur.
Ouais, d'accord.
Enfin, pas ultra acheteur, et surtout sur le web.
D'accord. C'est justement la question que j'allais poser.
Ouais.
Où est-ce que vous étiez revendu?
Eh bien, on était revendu, alors principalement effectivement sur Internet, sur notre site. Sur quelques marketplaces et puis effectivement dans certaines boutiques pendant quelques années.
Oui, j'ai dit revendu,
France,
c'est pas le bon terme que j'utilisais. Vous vendiez vous en direct sur votre site internet sur certaines marketplaces et après vous avez quelques revendeurs qui proposaient vos produits, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais, ouais. Ok, d'accord.
Et donc, alors en gros, si tu veux, ça s'est très bien passé. On a eu une aventure extraordinaire et qui nous a énormément appris puisqu'on a fait énormément de rencontres.
J'imagine.
On avait énormément de satisfaction de nos clients, donc pour ça on était quand même, c'est bête, hein, mais c'est quand même le nerf de la guerre aussi d'avoir la satisfaction client.
Ouais, on en parlait, il y a l'aspect financier qui est chouette, tu peux te rémunérer par ton projet, mais les retours des gens, c'est aussi hyper gratifiant et
exactement.
Ça booste.
Ouais, mais là on se rémunérait pas, tu vois.
Oui, d'autant plus. Mais d'autant plus. Mais je veux dire, c'est deux paramètres qui sont quand même importants quand tu lances un projet, te rémunérer et aussi avoir la satisfaction du client final.
Ouais. En fait, il faut pas perdre en vue que effectivement, perdre de vue, pardon. Je suis très mauvaise dans les expressions.
C'est pas
françaises.
Grave, t'en veux pas.
C'est un peu le combat de ma vie. Donc, il faut garder en tête qu'effectivement, derrière chaque projet, chaque marque, en fait, t'as toujours quand même des humains derrière, quoi. En fait, c'est pas robotisé, tu vois, il y a pour tout. Donc, le SAV, hyper important de bien l'entretenir. Et puis, on avait des salariés. On a eu deux salariés. On a eu Sarah et Ouda, qui ont été deux pépites.
Ouais.
Deux petites apprenties qu'on avait en contrat pro, donc en alternance.
Ok.
qu'on a adoré former. Enfin, moi, je les ai formées parce qu'elles s'occupaient de la partie marketing avec moi.
Okay,
et moi, ouais. J'ai adoré ça. Enfin, c'est deux nanas vraiment qui étaient très, très différentes. Alors, elles ont eu quelques mois ensemble pour faire la passerelle.
D'accord.
En plus, elles s'entendaient à merveille, tu vois, donc c'était ouais. Génial. Mais voilà, et c'est pas forcément des personnes qui nous ressemblaient de tout point, d'ailleurs.
Ouais, globalement, ouais.
Mais alors, je dis ça parce que ça peut avoir un point d'importance.
D'accord.
C'est-à-dire que quand tu travailles avec des personnes, tu t'attends aussi à leur transmettre, en fait, l'image de ta marque. Enfin, ouais. C'est ton bébé, quoi.
Bien sûr.
C'est un peu... Enfin, quand t'as une boîte, moi, je trouve que c'est un peu, tu sais, ton amant.
je suis d'accord
maîtresse.
Avec ça.
Voilà. Donc, c'est, on parle d'un truc, peut-être que les gens le palpent pas encore complètement quand t'es pas dans le truc.
Ouais.
Mais il faut savoir que c'est ça, quoi. C'est une vie maritale, enfin, autre maritale, tu vois, c'est un à côté. C'est hyper chronophage. Donc, voilà, t'as envie de parfaire la chose. Donc, les gens avec qui tu vas travailler, t'as envie qu'ils s'imprègnent de tout ça.
Ouais.
Et inévitablement, eux vont le retransmettre, surtout quand il s'agit d'images à retransmettre, en marketing, etc. Communication, ils vont le retransmettre aussi avec de ce qu'ils sont faits.
Bien sûr.
Et c'est en ça que moi, pour la première fois de ma vie, puisque c'est la première fois que je formais quelqu'un, je me suis rendu compte que bah, c'était peut-être le point le plus délicat.
D'accord.
À driver.
Okay.
Tu vas pas changer la personne qui est en face de toi, c'est pas du tout l'intérêt.
Ouais.
C'est pas la question, elle est même pas là. La seule chose, c'est de lui transmettre en fait tes valeurs, ton authenticité, ta vulnérabilité aussi. En faisant avec sa vulnérabilité, son authenticité
ouais,
et ses valeurs réelles. Donc voilà, faut faire un mix de tout ça, des deux, enfin des six du coup,
ouais.
Tu vois. Et voilà, et la salade finalement, enfin alors, désolé, je suis une métaphore vraiment pourrie.
Non, mais c'est intéressant ce que tu nous dis.
Mais la salade est vraiment très très belle et hyper bien réussie quand c'est un peu comme si ta vinaigrette
quand ça prend et que t'as choisi la bonne personne.
Ouais, ouais, exactement. Et pour ça, ouais, moi j'ai adoré ça. Ça a été deux nanas super. Voilà. Et puis ensuite, donc, le projet s'est terminé puisque problème financier. Il y a un moment où effectivement, d'un point de vue business model, on n'était pas, on vendait pas assez cher.
C'était pas satisfaisant, ouais. En tout cas pour vous deux en tant qu'associés par rapport à.
Bon, il y a eu quelques petits couacs d'associés aussi, inévitablement. Ouais. Et puis bon, alors après, il y a eu. Alors il faut savoir aussi qu'un projet quand il est entre guillemets, le business model n'est pas bon. Il y a toujours une solution pour essayer de relever un petit peu ou de redémarrer autrement avec un projet. En l'occurrence, là où du coup mardi matin s'est arrêté, c'est que on avait Morgane, a décidé d'arrêter
ton
le
associé,
projet
ouais.
et pour faire autre chose. Et voilà, et ça arrive. Et puis en fait, moi de mon côté, j'avais encore l'envie de continuer, mais la réalité était telle que en fait, c'était pas possible.
Ouais.
Donc voilà, donc on s'est stoppé comme ça. C'était une belle aventure qui a duré 4 ans. Voilà, et en fait, ça a été hyper porteur, hyper formateur pour elle comme pour moi.
Bah, c'est ça, tu nous dis que ça a duré 4 ans finalement, c'est quand même 4 ans. Et
ouais.
J'imagine riche d'enseignements sur plein de points.
Ah, bah, complètement. C'est la meilleure école pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure école de la vie.
Est-ce que vous aviez réussi pendant ces 4 ans à vous tirer un salaire convenable ou c'était difficile?
Non. On aurait potentiellement pu sur la fin.
Voilà. Ouais.
Donc c'était un petit peu rageant, mais non.
Okay.
On n'a pas su faire ça.
Et avec du recul, est-ce que, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, tu pourrais nous parler un peu, selon toi, de ton expérience, les bons, les mauvais côtés d'un projet comme ça dans le prêt-à-porter? Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ont des envies.
Ouais.
Et parfois, la réalité est tout autre de ce qu'on s'imagine. Donc est-ce que toi, tu peux, de par ton expérience...
Alors en fait... Je pense que donc les erreurs, de toute manière, que ce soit dans le prêt-à-porter ou autre, tout le monde en fera.
Ouais,
on en fait. Voilà. On est convaincu d'un modèle, on va se dire que ça va cartonner. Et en fait, on a raison. Quand on se dit ça, d'ailleurs, il ne faut jamais lâcher ça. Enfin, je pense que c'est vraiment un mantra qu'il faut ne jamais abandonner. C'est de se dire, la prise de risque, oui, effectivement, elle est là. Mais ce n'est pas grave. En fait, tant que je suis persuadée de réussir, enfin que je peux réussir, en fait, ce n'est pas grave, tu y vas. Tu fonces et puis tu verras après. Et à la limite, l'échec, s'il arrive, il arrive. Et puis, c'est pas grave.
Ah, j'aime bien cet état d'esprit. Mais être mon ambassadrice.
Non, mais c'est hyper important parce qu'en France, on n'est pas... Moi, je le répète très souvent. En France, on n'est pas, pas éduqué. Je te l'avais dit, il me semble. On n'est pas éduqué, en fait, à l'échec. On est éduqué à... Enfin, pas à l'encaisser. On est éduqué à...
Ni même à vraiment l'assumer. On n'ose pas trop dire qu'on a échoué sur certaines choses ou qu'on n'a pas réussi.
Non, mais c'est ça. En revanche, personne ne nous pousse à l'essai.
Ouais, c'est vrai.
Et ça, l'essai, c'est quand même en fait ce qui va un petit peu dessiner en fait tous les projets entrepreneuriaux ou même pas en fait les projets de vie.
Ouais,
tu vois, je dis n'importe quoi, mais t'accueilles des amis à dîner demain soir, tu vois, et tu te dis, tiens, j'ai envie de me faire une moussaka. T'as jamais fait une moussaka de ta vie. Bah, en fait, tu te dis quoi ? C'est soit, alors t'auras la team qui va dire, bah non, moi j'en ai jamais fait, donc du coup, je vais rester sur mon rôti Orlov, tu vois, j'en sais rien. Le truc habituel que je fais tous les ans à la même heure, même soir. Ok, très bien. Ou alors la moussaka, tu vas dire, bah, je vais prendre une recette et puis je vais y aller, je vais essayer. Ok, et bah ça se trouve, ça sera dégueulasse. Hein. Ça se trouve. T'auras mis trop de piment, j'en sais rien.
Et t'iras chercher des pizzas.
Mais c'est pas grave. Est-ce que tu penses que vraiment tes amis autour de ta table vont te dire bah alors oui, s'ils ont l'authenticité de l'ami véritable, tu vois, ils te diront
c'est dégueulasse.
Oui, effectivement, Mana, ton truc est vraiment pas très bon. Mais en fait, ça les fera rire. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la gravité dans tout ça, le risque, c'est quoi ? C'est de les faire rire, tu vois. Alors, on parle d'un projet business, c'est pas la même chose, mais est-ce que je suis vraiment en train de métaphoriser tout ça de sorte à dire que le risque, à un moment, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le paradoxe, il est là, entre la prise de risque et l'excitation de la réussite. Mais il faut vraiment se dire qu'à un moment, si tu n'y vas pas, tu peux pas, tu peux pas te dire que tu as échoué avant de le faire.
Ouais, je comprends. Mais moi, la première qui suis très contrôle fric, de par mon signe astro, il paraît.
Ah ouais,
ça, il y a pas longtemps.
Okay.
Et pour plein de choses, c'est vrai que de plus en plus, j'essaie de me dire, mais en fait, c'est pas grave.
Ouais.
C'est pas grave, peu importe les choses. Alors évidemment, il y a des mesures, pardon, mais ça dépend vraiment du projet. Mais quoi qu'il en soit, globalement, dans 90% des cas, c'est pas grave en fait.
Ouais. Échoue 9 fois et la 10e sera la bonne.
Ben voilà, c'est ça. Voilà. Okay.
Alors, excuse-moi, du coup, je me suis carrément éloignée.
Ouais, vas-y, je te laisse continuer.
Mais pour revenir sur ta question de départ pour le prêt-à-porter, donc effectivement, c'est pas un milieu simple. Maintenant, tu vois, aujourd'hui, typiquement, je suis en train de coacher et d'aider une petite nana super qui est en train de créer sa marque, alors qui existe depuis un moment, mais qu'elle a retransformée.
Ouais.
Et c'est du prêt-à-porter.
Ouais.
Donc là où, du coup, pour moi, c'est génial, c'est qu'en fait, je peux lui dire tout ce qu'il ne faut pas faire.
Ouais. Bah ouais, t'as l'expérience derrière.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas refaire de boulettes. Tu vois,
bien sûr.
Parce qu'on va en faire des différentes que moi je n'aurais peut-être pas fait avec mardi matin, on en refera, mais c'est pas grave, à nouveau. Et c'est bien, en fait, c'est bien de ne pas s'entourer, de personnes qui te disent où aller et qui te disent, ok, moi je sais où tu veux aller, donc en fait, il faut que tu fasses comme ça. En fait, c'est
comprends.
Bien de se perdre, tu vois, en chemin. Mm.
Donc, tu veux dire que alors c'est bien de s'entourer peut-être de gens qui vont t'aiguiller, t'aider, te conseiller, mais tu restes le seul maître à bord et c'est à toi
Exactement.
De savoir où tu vas.
Ouais,
ok.
C'est ça. Merci de l'avoir dit.
j'ai trouvé parfois ça arrive, j'ai des illuminations comme ça. Et... ok, donc est-ce que tu peux poursuivre un peu justement ? Alors ça, c'est un bel exemple du fait que toi, tu as eu l'expérience et que tu aies pu à cette nouvelle cliente lui dire un peu les avantages, les inconvénients et la mettre en garde sur certains points. Est-ce que tu pourrais, alors sans nous détailler tout ça, mais nous donner quelques exemples ou des petites choses que tu as découvertes justement en faisant ça dans ce secteur-là très particulier du prêt-à-porter ?
Alors, c'est-à-dire ?
Bah, je sais pas, tu t'es rendu compte que pour trouver des fournisseurs, c'était galère et vous avez...
Des déconvenues ?
Enfin, ouais, des choses comme ça ou...
Alors, effectivement, les déconvenues, t'en as quand même pas mal. Typiquement, là, c'est marrant, mais je retrouve les mêmes situations, tu vois, avec cette cliente-là que moi, j'ai connue aussi avant. On se retrouve dans des cas où, effectivement, t'es le dernier maillon de la chaîne parce que, en fait, t'es petit. T'as pas beaucoup de poids contre les fournisseurs. Mm. Tu te retrouves dans des situations où les gars te disent écoutez, votre production, en fait, je vais l'avoir terminée dans un mois. Donc là, tu te dis ok, génial, toi, tu mets tout en place. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, tu as ton marketing, tu as ta communication à gérer, tu as ton site internet, tu as tes wholesalers si éventuellement tu vois, t'as des revendeurs. Donc tu es en train de tout prévoir. Tout est une question de date finalement, parce que c'est quand même.
C'est hyper important, c'est ça qui fait que ça sort et que
exactement.
Tu lances tout le reste.
C'est ça. C'est quand même d'avoir le produit dans les mains à la base, à la fin plutôt. Et donc là, quand ils te disent, petit problème, c'est que il nous manque telle matière première, rupture de stock de nos fournisseurs à nous qui n'ont pas, je sais pas, tu vois, le bouton, il a manqué du corozo, de machin, de trucs. Donc en fait, on peut pas avoir les boutons à temps, donc la pièce va prendre du retard. Donc voilà, ok, tu dis, combien de retard ? Je sais pas encore.
D'accord.
Et tout est approximatif, c'est hyper flou.
Ok.
Et finalement,
c'est dur.
Alors là, pour le coup, tu te retrouves dans des situations complexes parce qu'en fait, il s'agit de sous.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, tout ce que tu as prévu en com, en market, tout ça, bon, bah, voilà. Mais ouais. Du coup, derrière, c'est l'aspect financier parce que plus ça retarde, moins tu fais les ventes rapidement.
Ouais. Ouais. Tout... Et puis, tu fais pas de vente tout court.
Bah,
donc,
oui,
en fait,
oui.
Tu as des trous de trésor où tu te retrouves avec des flux de trésorerie en fait, qui sont pas prévus.
Ouais.
Et où là, tu te dis, c'est border parce qu'il suffit juste que tu te retrouves avec un compte tu vois, où tu as... payer toutes tes charges à la fin du mois et puis que bah, tu n'as plus l'entrée qui était prévue, bah, là, c'est compliqué.
Donc, ouais, je comprends.
Rebondir à ça, c'est possible. Nous, on a dû trouver une petite solution et qu'effectivement, on applique aussi tu vois, avec d'autres marques et que beaucoup de marques aussi s'appliquent aujourd'hui, c'est la précommande.
Ouais,
c'est la vrai. Précommande, pour ça, en fait, quand tu as une marque de prêt-à-porter spécialisée, alors en plus pour nous, spécialisée dans l'éco-responsable, c'était entre guillemets presque trop simple tu vois de l'annoncer puisque du coup on avait la clientèle pour qui connaissait ce modèle économique
ouais.
Et finalement du coup c'est très très bien passé pour nous donc ça a été notre problématique résolue
ouais mais tu vois c'est intéressant c'est un bon exemple
ouais c'est un très bon exemple puisque bah, là pour le coup tu fais de la préco donc en fait t'as déjà théoriquement shooté ton produit bien évidemment et ensuite tu le vends
ouais.
Alors la seule chose c'est que t'annonces à tes clients qu'ils vont le recevoir un peu plus tard. Mais le discours derrière est tellement chouette. Moi, il y a vraiment un conseil que je donnerais, surtout quand on est dans une marque de prêt-à-porter, qui est pour moi un essentiel qui se démarque énormément aujourd'hui sur toutes les petites marques françaises, c'est la transparence. En fait, le client, faut lui dire, quoi. Faut lui expliquer. Moi, j'ai trop, entre guillemets, alors souffert est un grand mot, c'est pas vraiment ça, mais j'ai... Si t'as un synonyme, je veux bien.
Là, je cherche, j'ai pas.
Merci. J'ai trop été atteinte de...
C'est bien.
Ouais, il y a de l'effort. Trop été atteinte par le manque de connaissance du client. Alors attention, parce qu'en fait, je dis ça, c'est pas pour le fustiger, c'est juste pour dire que ben, le monde du prêt-à-porter, en fait, c'est un monde et qui est très particulier. Et en fait, le client n'est pas assez au courant aujourd'hui.
Oui, je comprends ce que
tu vois, quand on nous disait, nous, mais attendez, les filles, pour améliorer votre marque, ce serait pas mal de faire du Made in France. Non, mais d'accord, les gars, mais en fait, alors on va vous expliquer. Donc, tu vois, toi, au début, tu rages derrière ouais. ton ordi, t'es là, mais putain. Enfin, bon, tu vois, tu as envie de dégommer la terre entière.
Je pense que c'est ça dans plein de secteurs, en fait. C'est ouais. que le client final, lui, voit le produit qu'il va acheter.
Mais t'as raison, effectivement. C'est pas que dans le prêt-à-porter, c'est
pas tout pareil. Il connaît pas forcément le secteur
ouais.
et il
ouais.
y a plein de choses qui, pour lui, semblent évidentes et faciles.
Ouais.
Mais les coulisses ne le sont pas. Et
ouais.
c'est vrai que tu as raison. C'est aujourd'hui, je pense, de plus en plus, les marques montrent les dessous.
Oui.
Je pense que c'est alors, à la fois parce que les gens ont envie et sont un peu curieux, envie de savoir ce qui se passe, mais aussi justement pour cette transparence et pour que peut-être les gens soient un peu plus, entre guillemets, éduqués, mais on ne peut pas leur en vouloir
ouais.
parce que c'est normal de ne pas connaître le secteur du prêt-à-porter
bah,
ce qui s'y passe. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Ouais.
Et c'est dur à vivre, du coup, derrière, en tant que marque qui fait de son mieux sur plein d'aspects, de dire bah, « Allez, faites du Made in France bah, !» On aimerait bien, en
bah,
fait,
oui.
mais
ouais,
si vous saviez, quoi.
Qu'est-ce qu'on aurait aimé
ouais, je comprends.
Effectivement, là, après, c'est pareil. Tout est une histoire de sous, finalement, tu vois.
Donc, bah ouais, de toute façon, oui. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, on y revient quand même.
Oui, oui, oui.
Et donc, alors, merci pour cet exemple, parce que tu vois, finalement, il était hyper intéressant.
Ouais.
À la fin du projet de mardi matin, toi, dans quel état d'esprit tu es? Vraiment dans quel mood tu te sens et qu'est-ce que tu envisages pour la suite, un nouveau projet pro du salariat?
Alors,
je sais que tu vas me répondre non.
Écoute, fin de mardi matin, non, j'étais pas dans un bon mood parce que trop frustrée d'une
D'accord,
fin
la frustration,
trop courte
ouais.
Mais j'ai assez vite rebondi à ça, puisque j'ai, entre guillemets, eu presque un peu le temps de m'y préparer. Et puis, j'étais très bien entourée. Quand même, il n'y a pas à tortiller à un moment. Être entourée aussi, c'est quand même ultra nécessaire dans la vie, que ça soit ta famille, tes amis.
Ouais.
Là, tu fais appel, limite, tu sais... aux copains que tu as connus en maternelle. Enfin, tu vois, non, mais en fait, c'est bête, mais tout est.
Ton réseau, les gens que tu
réseau,
connais. Ton
réseau, les gens que t'aimes, en fait, sont là pour te soutenir et pour peut-être t'aiguiller aussi sur l'après. Donc là, en l'occurrence, la providence a fait que je me suis retrouvée avec la cliente en question.
Dont tu nous parlais tout à l'heure,
ouais.
qui a sa marque.
Ouais. Et qui a fait appel à moi. Mais déjà, tu vois, alors c'est marrant parce qu'elle a fait appel à moi quand. d'ailleurs, mardi matin, commencer un petit peu à être dans le flou.
D'accord, ouais, c'était pas encore fini que déjà tu étais en contact avec cette nana.
Exactement. Okay. Alors, c'était une copine à la base, mais c'est vrai qu'on s'était un peu perdu de vue. Elle m'a appelé, tu vois, il y a un an, pile.
D'accord.
En me disant, Mana, écoute, là, moi, je suis dans le flou dans ma marque, est-ce que tu peux venir m'aider ? Donc, en fait, on a discuté, et puis il s'avère que du coup, septembre dernier, donc mardi matin a été liquidé définitivement en octobre.
D'accord.
Et en septembre, j'ai commencé à travailler pour cette
Ah ouais, ok. Voilà.
Donc, ça s'est enchaîné comme ça. Et ensuite, étant donné que j'ai la bougeotte et que je ne peux pas, comme beaucoup d'entrepreneurs, je ne peux pas trop rester assis sur ma chaise, j'ai un petit peu parlé autour de moi de ce que j'entreprenais de faire, etc. Et finalement, en fait, je ne suis même pas allée chercher. En fait, on est venu à moi. Donc ça, c'était quand même trop chouette.
Tu n'as pas vraiment réfléchi, en fait. Tu t'es laissé embarquer parce qu'il arrivait.
Mais c'est exactement ça. Le projet s'est monté, pas par mon souhait, mais par...
Par les rencontres, par les demandes, par la vie, quoi, qui a fait que...
Non, mais c'est ça. Donc, c'est assez fou. C'est là où tu te dis quand même, quand tu t'abandonnes, la vie est quand même bien faite aussi, parfois.
Oui. Donc, tu commences à bosser sérieusement pour cette nana.
Ouais.
Tu lances ta boîte, justement, de consulting, comment on peut dire ça ?
Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est de la prestation de service, pour le coup.
D'accord. C'est du marketing digital, ce que tu fais aujourd'hui, de la com, sur quel point tu les aides, enfin, tu l'aides, elle et tes autres clients ?
Alors, en fait, c'est ça.
Finalement, tu reviens à tes premiers amours, alors que tu n'as jamais vraiment quitté, parce que même avec tes projets, tu avais besoin de ces compétences-là. Mais
en fait, je suis devenue perfectible, tu vois, avec le temps.
Ouais.
Et c'est complètement ça. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est un mot qui devrait s'appliquer à tous, parce que finalement, avec les expériences et le temps, l'âge grandissant, tu vois, on devient perfectible, mais nos projets aussi.
Ouais.
Donc, même le projet que je suis en train d'avoir en ce moment... Alors effectivement, je fais du coaching, en fait, je suis un peu touche-à-tout parce que j'ai quand même eu pas mal de palettes, tu vois,
et
je me suis auto-formée, j'étais un peu autodidacte aussi pour mardi matin parce qu'on avait peu de moyens, par exemple, pour cette cliente, tu vois, je la coach, donc je fais pas mal... En fait, de coaching management, enfin, tu vois, des choses
D'accord,
comme ça.
Ouais.
Je vais la coacher sur ses chiffres, sur combien placer ou placer, sur les fournisseurs, la relation fournisseur qu'elle va avoir, la manière de bosser. Enfin, bon, en fait, c'est un global, mais en même temps, tu vois, je vais faire ses fiches techniques. Donc là, c'est la partie stylistique.
Oui, je comprends. Mais du coup, alors.
Et je fais son site internet, et son web marketing
tu vois. Oui.
Donc voilà, je fais beaucoup de choses. Et pour les autres clients, globalement, je fais pas mal de coaching.
Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que pour le coup, elle est dans le prêt-à-porter. Donc en plus, t'as toi cette expérience-là.
Ouais.
Mais est-ce que t'as des clients dans des secteurs totalement différents où là, ces compétences-là, finalement, tu vas pas forcément t'en servir et c'est plutôt le reste qui va primer
Ouais. J'en ai d'autres qui sont à peu près dans le même secteur. Reste du produit en fait, ça
D'accord.
reste du produit en ligne et c'est vrai que c'est un peu mon cœur de, enfin en fait c'est mon cœur de compétence.
Oui d'accord, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que c'est par choix justement que ça reste quand même des clients qui ont un produit, en tout cas quelque chose de palpable
non,
à vendre.
Okay. Mais je pense que parce que je l'ai fait, du coup c'est eux qui sont venus en me disant, en venant me voir et en me disant toc toc, est-ce que tu peux
m'aider,
toi qui a déjà fait ça.
Oui d'accord.
Donc et tant mieux parce que je me rends compte que c'est là où je m'éclate le plus vraiment. J'ai un client qui n'a rien à voir et qui est un industriel.
D'accord.
Et pour le coup, c'est vraiment de la formation pure et dure. Tu vois, sur Google Analytics, Google Forms, et ça va être aussi, tu vois, du Facebook Ads, LinkedIn. Enfin bon, voilà. Donc Instagram, etc. Les réseaux sociaux, de manière générale. Mais voilà, en fait, alors, c'est très bien tout ça, tu vois. Mais à nouveau, même le projet que je suis en train de mener aujourd'hui, je ne sais pas trop où il va me mener, tu vois.
Ouais, ok.
J'ai appelé la société Melting Pot. C'est chaud de trouver un nom.
Je te confirme.
C'est chaud. Hein. Moi, je trouve que c'est un truc qui est casse-tête, mais vraiment.
Ouais, c'est vrai.
Et j'ai trouvé ce nom-là parce que... alors, moi, c'est un mot que j'adore. Alors, certes, il a été... franglisé, enfin bon, tu vois, on l'utilise nous en français, melting pot, c'est pour moi, c'est un peu l'image de la salade, tu vois. C'est la diversité que tu vas rassembler à gauche, à droite, etc. Et globalement, pour en faire un mélange de compétences qui vont faire à un moment que ça émane à quelque chose d'uniforme ou du moins une unité, tu vois.
Ok, je comprends.
Et en ça, c'est un petit peu ce que j'aimerais faire, c'est de bosser en fait avec des personnes qui sont plus spécialisées que moi dans certains domaines et que je pourrais faire intervenir, tu vois, à droite, à gauche, pour des clients.
Pour avoir un accompagnement global, enfin sur plein d'aspects.
Ouais, et puis surtout pour avoir la compétence ultra valorisée, en fait, tu vois, sur un secteur d'activité que moi, je ne vais pas forcément performer. Et puis, en fait, je ne peux pas être partout non plus, tu vois.
Non,
et en même temps, je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que le collectif. Parce qu'aujourd'hui, le collectif, pour moi, c'est un peu l'avenir. Et c'est vraiment le... Tu vois, c'est génial, quoi. En fait, tu peux faire des milliards de choses avec des gens différents. La diversité est quand même extraordinaire en ça, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Ça nous apporte à pousser des portes autres que les nôtres et à avoir d'autres idées, d'ailleurs.
En fait, je comprends, bien sûr.
Pas rester cantonné, tu vois, dans ce qu'on s'est imaginé au départ.
Donc du coup, en fait, mardi matin, ce stop et tu réfléchis pas du tout à te dire est-ce que je cherche un job parce qu'il faut bien manger, est-ce que je relance un projet, finalement, ça se fait tout seul.
Ouais.
Et tu ne retrouves pas le salariat que tu avais déjà quitté et qui n'avait pas duré très longtemps
mais
avant.
Là, je gagne ma vie. La différence, elle est là.
Et donc, tu lances Melting Pot. Donc, c'est intéressant de voir un peu comment tu rebondis et puis aussi de montrer qu'effectivement, tu as évidemment sans doute été frustré et comme tu nous l'as dit, touché par l'arrêt d'un projet parce que c'est normal, on le porte.
Ouais.
Mais ça t'a pas empêché de rebondir et de lancer autre chose. Donc, c'est chouette d'avoir ce...
Oui.
Comment tu te sens aujourd'hui ?
Oh, super.
Ça fait quelques mois que tu es consultante, coach, je sais pas comment tu détermines, en tout cas, pour tes clients. Voilà, c'est quoi ton...
Ouais.
C'est vrai
ouais. En fait, c'est difficile, tu vois. J'ai une cliente qui me dit « Mais Mana, je sais pas comment te définir. » Et je dis, écoute, mais même moi, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que quand tu touches à tout, finalement. Donc, elle m'appelle sa coach.
Couteau suisse.
Ouais, peut-être.
Mais bon,
ouais,
c'est un peu. Tout le monde le dit un peu. Donc...
Oui, ça doit être ça. C'est consultante en web marketing digital, je sais pas. C'est peut-être à moi aussi, tu vois, d'apprendre à communiquer sur ce que je fais. Je le fais pas encore. Faudrait que ça se fasse.
Ok. Et justement, je te posais la question de comment tu te sentais parce que tu as quand même eu des projets, plusieurs projets, dont le dernier qui était conséquent. J'imagine que ça te prenait beaucoup de ton temps. Et est-ce que tu n'as pas ressenti le moment où en fait, tu te retrouves toute seule avec ton projet ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
J'ai fait mon propre bilan de compétences.
Ouais. Non, mais c'est pas grave en fait.
C'était bien
de faire le point, quoi.
Alors, c'est pas simple, mais là, à nouveau, j'y reviens. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être bien entourée. Moi, j'avais mon mec qui rentrait le soir, tu vois, et en fait, là, on est dans la cuisine. Il voyait. Donc, j'ai pas de bureau à la maison, finalement, parce que avant, pour le Lucien, tu vois, j'avais un atelier qui était à l'autre bout, mais bon, c'était un atelier de couture.
Oui.
Là, aujourd'hui, l'atelier est devenu le bureau de mon mec. Donc, c'est pas ça. Globalement, j'ai pas de bureau dans la maison et en fait, la pièce où je me sens le mieux, c'est la cuisine.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est souvent la cuisine quand on est le mieux chez soi.
C'est vrai.
Pour recevoir les gens, tu vois.
Surtout quand on aime recevoir, quand on aime bien manger.
Mais oui, c'est vrai. Parce que ta cuisine pourrait faire 10 mètres carrés. En fait, à chaque fois, tu te retrouves avec tout le monde au même endroit. C'est la cuisine.
C'est vrai.
C'est quand même fou. Alors que t'as, je sais pas, beaucoup plus d'espace à côté, mais non. Donc voilà, et il rentre à la maison, il voit des tableaux de partout avec. je te dis bilan de compétences, donc forcément, tu vois, ça m'a pris du temps. Et j'avais tout posté, tout écrit à la main, parce que j'avais besoin de l'écrire à la main. Mais au moins, je suis assez visuelle et je le voyais, tu vois, et j'avais posé mes trucs, etc. Donc, c'était un peu le dawa, mais assumé. Et en même temps, ça m'a servi.
Ouais.
Et j'en ai parlé avec des amis, une qui passait, elle, son bilan de compétences avec un vrai organisme pro, etc. Il y avait des petits tests, tu vois, que tu faisais passer à des amis. Enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, c'est vachement bien. Je crois que ça s'appelle Chance.
Okay.
C'est un programme.
Chance, c'est un programme qui existe. Alors je vais pas savoir en dire beaucoup plus, mais je vois passer beaucoup de com là-dessus et qui t'accompagne dans les bilans de compétences. Ça donne envie, ça a l'air pas mal.
C'était génial. Donc en fait, j'ai un peu fait un truc pas cool, mais j'ai squeezé le questionnaire en question. Enfin, je l'ai pas squeezé, pardon, je l'ai hacké.
Ouais.
Je l'ai hacké pour moi. Et en gros, je l'ai envoyé à certains amis, tu vois.
D'accord.
Voilà, et en fait, le truc est super bien pensé, super bien fait. On te pose plein de questions, donc à l'ami en question.
Ouais.
te concernant.
D'accord.
Et globalement, les réponses doivent être ultra franches, transparentes, hyper honnêtes, mais ça apprend énormément sur soi, tu vois, quand c'est l'autre qui va parler de toi.
C'est dingue, oui.
C'est dingue
de se rendre compte ce que les autres peuvent dire de nous, qu'on n'imagine peut-être pas. Enfin, on se voit peut-être pas comme ça. Enfin, c'est vraiment intéressant de faire cet exercice.
Ouais. Et puis les questions sont complètement saugrenues. Hein, tu vois, mais il y en avait une, c'était globalement comment imaginez-vous votre amie quel métier imaginez-vous pour votre amie si elle avait vécu au Moyen Âge. Enfin, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est complètement barré.
Ah oui, effectivement.
Mais la réponse est tellement chiante à chercher que du coup. Bah, c'est pas si désuet. Enfin, tu vois, c'est.
Oui, je comprends.
Sens.
Faut le donner aux bons amis qui vont en prendre le temps de répondre aux questions.
Ouais, c'est ça.
Ok. Bon, bah, c'est intéressant en tout cas de voir un peu le cheminement.
Oui.
Et j'ai envie de te poser une question, même si on se connaît pas très bien, mais je sens un peu que j'imagine la réponse.
Oui.
Comment tu te vois dans 5 ou 10 ans?
Oh, attention, question piège, je déteste cette question.
C'est vrai.
Je
me doutais.
Parce que. Parce que pour moi, la seule réponse... Alors, c'est marrant, tu vois, on me l'a posée à des concours sub de pub, tout ça. Là. Enfin, bon, voilà,
j'aime pas
trop
cette question, mais je te la pose
Je vais te répondre un truc qui va peut-être pas te plaire.
Non, non.
Parce que pour moi, il n'y a pas de réponse à donner. Je ne me vois pas dans 5 ou 10 ans. En fait, je ne me donne même pas le luxe d'y réfléchir, puisque pour moi, à nouveau, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, j'estime que globalement, le chemin n'est pas tracé. Et que le chemin, il sera à tracer en fonction des rencontres, en fonction, du chemin qui est encore à rendre perfectible. En fait, tu vois, tout est à améliorer, tout est à changer au fil du temps. Et je n'ai pas envie de me dire... je me suis trop dit, tu vois, justement, avec Mardi Matin... surtout avec Mardi Matin, où je me disais, en fait, il y a un objectif, c'est les sous. Il faut se payer, tu vois.
Oui.
Et je pense qu'à force de trop vouloir se dire ça, t'en perds ton objectif de base.
Mm.
Tu vois, l'objectif à la base de cette marque-là, c'était tu fais quelque chose que t'aimes, quoi. Donc, t'as envie de le rendre beau, mais t'as pas envie de t'éloigner. Et sauf qu'en fait, s'éloigner de ton projet de base ou de ton objectif de base, c'est trop facile. Quand tu te dis j'ai l'appât du gain qui est là, qui est au bout, c'est la grosse carotte, eh ben, tu peux vite t'éloigner. Et là, moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas ça, j'ai pas d'objectif et je suis contente de pas m'en mettre parce que je sais que de toute manière, ça se trouve, je vais chuter, ça se trouve, je vais tomber et tant mieux. Et en fait, si j'ai bien appris un truc, c'est que ça a du bon, c'est ce que je te disais tout à l'heure.
Oui.
Chute 9 fois et la 10e sera la bonne. Et voilà, et à nouveau, tu vois, c'est trop bête, mais faudrait que dans les écoles, on apprenne à se relever et non pas, tu vois, à atteindre un objectif.
Oui.
Bah, moi, je sais pas, je suis pas...
La question, justement, je te l'ai posée et ta réponse me va parfaitement parce que je te l'ai posée pour avoir cette réponse-là, en fait. Parce que moi aussi, hein, je suis un peu de ça, mais je trouve qu'on se met même parfois nous-mêmes une pression de se dire il faut que j'atteigne tel objectif ou il faut que dans 5 ans j'ai ça, parce que la société, parce que l'éducation, parce que plein de choses.
C'est bien d'avoir des objectifs.
Effectivement, il faut quand même en avoir quand t'as une boîte. Enfin, après, chacun ses projets, ça dépend des secteurs, ça dépend de plein de choses. Il faut avoir des objectifs, mais il ne faut pas se mettre une pression à tout prix avec se dire dans 5 ans, je veux ça, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite.
Exactement.
Et ce n'est pas grave. En fait, c'est surtout ça. Ceux qui en ont et qui le vivent très bien,
vu,
c'est cool.
J'ai commencé à te convertir sur le « c'est pas grave
». Ouais, non, mais je te dis, je suis en transition, là. Et donc, du coup, voilà, ceux qui en ont, c'est très bien s'ils ont besoin de ça pour avancer, mais c'est pas grave si vous n'en avez pas et si vous vivez, alors sans forcément vivre au jour le jour, parce que ça veut pas dire non plus qu'on fait les choses bêtement sans réfléchir. Mais tu vois, sans cette pression des années qui viennent et de comment je vais faire et de ce que je vais être et de comment je développe ma boîte, quoi. Donc, la réponse me va bien.
Tant mieux.
Alors, à chaque fin d'épisode, je pose 3 questions à mes invités. Donc, j'aimerais savoir déjà dans un premier temps, alors tu l'as déjà abordé, donc tu vas me dire si tu as une autre idée à nous partager, que tu nous parles d'une déconvenue, d'un exemple peut-être précis, alors pas forcément une chose ultra grave, du coup, comme on en a parlé, mais un exemple précis pendant ton parcours de choses qui ne s'est pas du tout passé comme tu l'avais imaginé, où ça t'a vraiment beaucoup perturbé, mais finalement, ça t'a appris en fait. Est-ce que tu as une autre idée? Parce qu'on a déjà abordé un peu le sujet.
Il y a l'histoire des fournisseurs, de la précommande, etc. Ouais. Ah, si, il y en a une. Alors, c'est une petite... C'est une anecdote plus qu'une expérience.
Ouais.
Mais pour le Lucien, tu vois, j'avais eu... à des clients qui, il me semble, la veille de leur mariage, donc la commande était livrée, tu vois, depuis déjà 2 semaines, tout allait bien, etc. Et en fait, la veille du mariage, le marié me dit, en fait, gros problème, mon neveu a renversé de la peinture sur toute la commande. On avait tout ouvert, on avait tout essayé, on les avait remis dans le sac, mais pas dans les boîtes. Et toute votre commande, en fait, est foutue, quoi. Et donc, il m'a dit, écoutez, voilà, là, c'est chaud, on se marie demain à 16h. Ouais, bah d'accord. Alors, il était à Tours. Et il me dit, mais donc, j'ai 2 solutions. C'est soit, du coup, je vais acheter aux Galeries Lafayette des trucs pas chers, cachés. Enfin, ouais. Oh, on va dire ça. Pardon. Expression, voilà. Je t'avais dit que j'étais pas la plus forte pour les expressions. Mais donc, voilà, il y va. Enfin, il y va pas, pardon. Il me dit, j'ai cette solution-là. Ou alors, est-ce que tu pourrais, en fait, nous faire ça ? Et là, je me suis... Enfin, prime abord, tu vois, je lui dis, non.
Bah en oui, fait, en fait,
clairement. Là, tu vois, elle est vendredi 11h du mat. Demain 16h, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi ? Et j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, allez, en fait... Enfin, l'après-midi en question, tu vois, j'étais pas à la bourre, moi, sur mes commandes. Et je me suis dit, allez, enfin, en fait, j'ai pensé à lui. J'ai vraiment pensé au client, tu
d'accord.
vois. J'y ai pensé très, très fort. Ouais, très, très fort. Bah, de toute façon, il repayait sa commande. Hein, donc,
oui,
voilà.
Bah, oui, oui.
Mais il était prêt à le faire parce qu'il était hyper attaché à ça, à sa commande. Et en fait, j'ai fait sa commande. Donc, il y avait 11 nœuds papes, tu vois, de mémoire. Et il y en avait aussi pour les enfants.
Ah oui.
Ah ouais, non, mais ça m'a
moi,
pris.
Moi, je croyais que c'était 3 nœuds la nuit. 11 nœuds papes, oui.
Oui, et puis en fait, tu les fais certes à la chaîne, mais ça te prend quand même beaucoup de temps quand
t'es
toute seule.
Oui, oui.
Là, en l'occurrence, tu vois, ma couturière pouvait pas... Enfin, voilà, je crois que je lui ai même pas demandé de le faire, tu vois. C'était trop... Enfin, non. Et donc, j'ai fait ça. Ça m'a pris toute l'après-midi, toute la nuit. Mais je les ai fait. Et le lendemain, je peux te dire, le gars était tellement heureux qu'il m'a chialé dans les bras. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, ça a du sens, quoi. Tu vois, ça a vraiment du sens. Ce que tu fais, ça a du sens. Enfin voilà, il y a rien de mieux que d'avoir. Alors bon, t'as pas envie que tes clients chialent devant toi quand tu leur
non, bien
quelque
sûr.
Chose, mais ça avait vraiment, ça a pris plein de sens.
Ouais, ok. Bah bon exemple, du coup pour le coup. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous partager une personne qui t'inspire le plus ?
Oui.
Ou plusieurs, s'il y en a plusieurs que tu connais ou pas forcément.
En fait, personne au quotidien. J'en ai plusieurs. Moi, j'ai pas mal. D'amis proches, tu vois, qui sont entrepreneurs et qui font preuve de résilience tous les jours dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles entreprennent, dans leur métier. Moi, j'admire beaucoup. J'en ai une qui s'est lancée à son compte, en cabinet de recrutement. Et alors, elle va sourire si elle m'entend, mais je trouve ça hyper chouette d'y aller tous les jours, surtout qu'en plus, elle est dans un métier qui n'est pas simple, parce que globalement, tu fais avec l'offre et la demande du marché, et en l'occurrence, en ce moment, c'est super chaud. Et bien, la nana, en fait, son taf, c'est quand même d'y aller, quoi. C'est d'aller chercher, chercher. Et pour moi, ça, c'est quand même le nerf de la guerre, le commerce, tu vois. Donc moi, j'ai ces personnes-là. Après, d'un point de vue personnalité publique, j'en ai pas mal. J'ai Jacob Abou. Je sais pas si tu connais.
Non, je connais pas.
Qui a un ponte. Alors, je t'amène à regarder un petit peu ce qu'il a fait. C'est un ponte vraiment de l'entrepreneuriat. C'est un serial entrepreneur, le gars.
D'accord.
Alors, il est décédé l'année dernière, malheureusement. En fait, c'est le patron du Journal de l'Automobile.
D'accord.
C'est lui qui a créé ça.
OK.
Donc, il est quand même un monument de l'automobile, du monde automobile. Et puis, c'est aussi, tu vois, celui qui a amené le contrôle technique en France.
D'accord.
Voilà. Et en fait, ce gars-là... c'est un mentor professionnel mais extraordinaire. Il a eu 50 boîtes quasiment, tu vois, entrepreneur du début jusqu'à la fin.
Oui.
Il a une vie assez extraordinaire. Il a acheté, créé, fusionné, re-racheté, reliquidé. Enfin bref, il a un parcours de dingue. Et en fait, moi, c'est un gars qui m'inspire beaucoup dans ce qu'il a dit, les interventions qu'il a eues. Parce que c'est un peu le type justement de l'optimisme, tu vois, et du c'est pas grave finalement.
D'accord.
En fait, on y revient, mais c'est vraiment ça. Après, dans les personnes qui m'inspirent, il y a peut-être plus des personnes musicales ou cinématographiques. Tu
ouais,
vois. En fait, moi, la musique, c'est un peu toute ma vie.
D'accord.
T'as un groupe, les Velvet Underground. Les Velvet, en fait, c'est un groupe qui a pas duré très très longtemps. années 60, 70, je crois. 60, ouais, je ne saurais
pas
plus.
Dire, mais...
Et en fait, c'est un groupe qui a méga influencé David Bowie. Enfin, il y en a eu plein, en fait. Ils ont influencé le punk rock sur des mouvements de musique comme ça. Et en fait, ça me fait marrer aussi de voir le début du commencement du meilleur. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
ou pas?
Je comprends.
C'est marrant de voir d'où ça vient, en fait. Ouais. Et c'est un groupe, quand tu les écoutes, tu te dis « Ah ouais, d'accord, en fait, je sais. » Enfin, tu vois, tu fais le pont
fais
entre
liens,
lui
ouais.
et David Bowie, etc.
Ouais, ok.
Et ensuite, il y a vraiment une femme, moi, qui m'a inspiré énormément, c'est Agnès Varda.
D'accord, ouais.
Qui est la cinéaste et photographe, alors très, très connue, qui est décédée il y a quelques années, je pense.
Oui, je crois.
Ça a été une femme hyper inspirante. Alors elle, en forme de résilience, clairement, on peut y aller. Elle a une vie de dingue. Et tu vois, à chaque fois, en fait, elle a su se relever, certes, mais elle y allait. En fait, tu vois, elle était de parents grecs et belges, il me semble.
Okay.
Et elle habitait à Sète, tu vois. Et elle a été cheftaine à la FFE, donc Fédération Française des Éclaireuses. Elle a fait passer des petites filles juives, tu vois, en Suisse.
Ouais, d'accord.
Quand elle était même pas majeure, tu vois. Et ensuite, donc ça, on parle de ça, c'est 39-45.
Oui, oui.
Ils ont été déportés, enfin, ils ont fui Sète, donc ils sont partis à Paris avec ses parents. Et ensuite, tu vois, à Paris, elle a passé son bac, etc. Très bien. Et en fait, à 19 ans, elle s'est dit « Ok, en fait, moi, j'en ai ras-le-bol. » En fait, elle a pris son courage à deux mains et elle a fait un gros pas vers l'indépendance, tu vois, en se disant « En fait, je veux bouger. J'ai besoin de mon indépendance. » Donc, elle se casse. Elle fugue de chez ses parents pendant 3-4 mois de mémoire. Elle est partie en Corse. Et en fait, donc elle s'est débrouillée pour tracer toute la France.
Ouais.
Et elle a bossé sur des bateaux de pêche.
D'accord.
Elle est revenue ensuite à Paris pour payer, et bah, du coup, avec cet argent-là qu'elle avait gagné, tu vois, sur les bateaux de pêche, elle a payé ses études de cinéma et enfin, voilà, ses études cinématographiques.
Oui.
Et ensuite, elle a gravi les échelons comme ça, petit
D'accord.
à petit, tu vois.
Ouais, tu vois, je connaissais pas
Jacques,
son histoire.
Ouais. Qui est devenu son mari et qui est un réalisateur hyper connu. Voilà, et en fait, elle a une vie passionnante, quoi, vraiment.
Ok, bah, c'est intéressant, voilà. On s'y penchera parce que
du coup, elle a un documentaire sur elle qui est super, super bien fait.
D'accord, ok, bah, merci à toi. Et enfin, j'aimerais que tu nous partages une citation ou un mantra que tu te répètes ou qui est accroché dans ton bureau, je sais pas, qui pourrait nous inspirer.
On va pas se mentir. alors écoute, du coup, ça vient de Jacob Abou, justement.
Ouais, ok.
Il disait « Un entrepreneur réfléchit en stratège, mais agit en sauvage.
» D'accord.
Hyper intéressant parce que, en fait, c'est vrai. C'est complètement ça. À un moment, tu réfléchis plus et t'agis.
Ouais.
Et ensuite, « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît. Tu risquerais de ne pas te perdre. » C'est un peu ce que je te disais
ouais,
tout à l'heure.
Bien vu. Intéressant.
Voilà. Moi, je te dirais en plus, éventuellement, il faut apprendre à écouter ce qui est dit et pas qui le dit.
Ok, intéressant aussi. Ça, je réfléchis en même temps que tu le dis, tu vois.
Oui, oui.
On arrive à la fin de l'épisode, Mana. Merci beaucoup, beaucoup, parce qu'il est hyper riche. Tu nous as dévoilé plein de choses, partagé plein de choses qui, je pense, vont peut-être en aider certains sur projets ou en tout cas sont hyper intéressants parce qu'on peut les appliquer dans nos vies ou dans nos business. Ou voilà. Donc, merci à toi de ce partage
merci
de ton
à toi,
temps.
Surtout.
Et puis, je te dis à très bientôt.
Ouais, ça marche.
Salut, Mana.
Salut, Émilie.
Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre Comme Elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @comeelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.